pour moi, le point de départ de ça, c'est que justement, je me suis aperçu qu'en tant que croyant, quand on lit la Bible et qu'on voit vie éternelle, on pense après la mort. Hein, le paradis, ce qui se passera après dans l'éternité. Parce qu'il y a éternel, vie, et puis voilà, vie éternelle, c'est après. Hein. Or, et ça c'est vrai, attention, hein, quand je disais on va enlever la question du temps, quelles sont les caractéristiques de la vie éternelle, hein, la question que je vous posais, que je me suis posée, sur laquelle je réfléchis depuis quelques mois, c'est quelles sont les caractéristiques de cette vie. Parce que cette vie, elle est à ma disposition ici, maintenant, depuis que je suis connecté à Dieu, et que c'est maintenant que j'ai envie de la vivre. Hein. Alors bien sûr, tout ce qui a été dit, attention, c'était correct, parce que comment c'est en anglais, on dit glimpse, c'est quoi là, les avant-goûts, hein, comme ça, de ce que sera la vie avec Dieu dans l'autre vie après cette vie sur terre, effectivement, il y a des tas de choses sur terre qui nous en donnent un avant-goût. Hein. Quand on est émerveillé par un paysage, par de la musique, par la beauté, par l'amitié, la fraternité, l'amour, enfin, tout ce qui est beau, positif sur cette terre, la créativité, tout ça nous donne une idée de ce que ça sera quand on vivra ça sans les limitations du temps, du péché, de l'orgueil, de la comparaison, de la compétition, etc. Il y aura toutes ces choses-là dans la pureté. Ça va être extraordinaire. Mais ma question et le but de ma méditation, c'était que justement, j'ai l'impression que les croyants vivent en se privant de choses extraordinaires et d'une certaine façon, ils se coulent dans la critique qui est une parodie qu'en font les non-croyants. Hein. Ce qui se dit beaucoup, c'est oh ben ouais, la foi, c'est un truc pour faire patienter les gens sur terre en attendant pour qu'ils acceptent les injustices sans discuter. Hein, c'était ce que Marx disait, entre autres. Hein. Ouais, ben, avec la religion, les gens ben, acceptent d'être écrasés, ne se révoltent pas, parce qu'au ciel, ça sera mieux. Hein. Alors, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Dans les choses que je ne maîtrise pas et que je ne peux pas changer et qui me font souffrir, de savoir que ces choses-là ne sont pas éternelles et qu'un jour ça sera mieux, ça c'est bien. Hein. Si je suis malade, si je suis infirme, si ben, ne serait-ce que le fait de vieillir et que ça me limite, de me dire que ça aura une fin et qu'un jour ça sera mieux, c'est bien. Mais par contre, limiter la vie chrétienne à « je rencontre Dieu, après ben, je serre les dents et tout ce qu'il faut avec, et un jour ça sera bien au ciel », c'est triste. Parce que ce n'est pas du tout de ça que, lorsque Jésus est sur terre, il dit « le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards ». Voici, le royaume de Dieu, il est en vous ou au milieu de vous, selon les traductions, et les deux sont justes. Hein. Il est en vous et du coup, il est au milieu de vous. Hein. Ce qui va se passer après la vie sur terre, c'est un sujet passionnant que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai aussi beaucoup réfléchi. Et je peux vous conseiller de très bons livres là-dessus, C.S. Lewis notamment, Chesterton, des gens comme ça qui ont une approche intéressante pour sortir là aussi du cliché robe blanche, petite harpe sur un nuage, chanter le même cantique pour l'éternité. On comprend pourquoi les gens veulent aller en enfer, où là-bas c'est la fête, il y a des jolies filles, on danse, on boit, on s'amuse. Hein. Et puis nous, on serait sur un petit nuage avec une robe ridicule, genre à l'hôpital, vous savez. Et puis une petite harpe, puis le même chant, on le reprend pour l'éternité. Quoi. Mais je ne veux pas aller au ciel. Donc, ce n'est pas ça non plus. Mais ce qui était important pour moi, c'était cette vie qui est à ma disposition maintenant. Alors, ni pleinement, ni parfaitement, ni tout le temps. Mais elle est là. Et je peux m'y connecter. Et elle n'est pas loin. Elle n'est pas dans l'avenir. Elle n'est pas dans le futur. Elle n'est pas dans un bâtiment. Elle n'est pas à l'église. Elle n'est pas dans la Bible. Elle est en moi quand je peux me connecter avec Christ qui vit en moi. Hein. Parce que le résumé le plus court de la bonne nouvelle, évangile veut dire bonne nouvelle, c'est Christ vit en nous. Hein. Toute la raison de la venue sur terre de Christ, mourir, ressusciter, etc., qui est extraordinaire, qu'on peut passer notre vie à être émerveillé par ça, c'est normal. On doit continuer d'y réfléchir. Mais tout ça, ce n'est pas la finalité. C'est la condition pour que nous puissions être reconnectés à Dieu et vivre avec Christ en nous. Et j'ai déjà raconté, mais cette toute petite anecdote, histoire, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais illustre très bien comment malheureusement vivent les chrétiens. Hein. C'est l'histoire à l'époque où les gens voulaient immigrer aux États-Unis, puis c'était très pauvre, hein, en Irlande ou dans des pays comme ça. Et puis ben, il fallait arriver à se payer le billet, quoi. Puis c'est l'histoire d'un homme qui veut refaire sa vie là-bas parce qu'il est tellement pauvre. Puis il économise, il vend tout ce qu'il a et il arrive à se payer le billet. Puis il réfléchit, il se dit ah, et comment, j'ai juste de quoi me payer le billet, comment je vais manger pendant le trajet? Alors il calcule la durée de la traversée et puis il achète des biscuits et puis il calcule qu'il a droit à 4 biscuits par jour. Et puis ben, il est là sur le bateau, il embarque, il a sa caisse de biscuits, il la cache dans la cale. Et quand les gens vont manger, et puis il sent les odeurs et tout, il y a un resto avec un cuisinier et tout, lui il descend à la cale et il compte ses biscuits, quoi, 2 le matin, 1 à midi, 1 le soir, quoi. Et puis il se fait toute la traversée comme ça. Et puis 2 jours avant d'arriver aux États-Unis, il croise quelqu'un au moment du repas, il dit « mais tu vas où ?» Il est un peu gêné, il n'ose pas le dire. Et puis, puis finalement, il explique, quoi. Il dit, mais tu ne savais pas que dans le prix du billet, il y avait les repas au resto, hein? Et il a passé sa traversée à bouffer des biscuits, en plus en pensant qu'il méritait quelque chose de plus, parce qu'il souffrait pour cette nouvelle vie, quoi, hein? Et les chrétiens vivent un peu comme ça. On va aller au paradis, ce fameux endroit qu'on ne sait pas à quoi il ressemble après. En attendant, ben, il faut souffrir, serrer les dents, parce que ben, sur Terre, c'est... Alors oui, sur Terre, c'est compliqué. Oui, la vie est méchante. Oui, elle est agressive. Oui, le mal est partout. C'est une horreur. On est d'accord. Hein? Et pourtant, Jésus dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et le verset, moi, qui a alimenté ma méditation pendant tout cet été, c'était dans Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas quelque part. Comme l'a dit Carmen, quelqu'un qui est déconnecté de Dieu et qui le sera pour l'éternité, parce que l'enfer, c'est quoi, hein? L'enfer de Dante, c'est amusant à lire, enfin c'est horrible, mais ça peut être amusant, comme on aime les films d'horreur, mais ce n'est pas ça. Les gens sur les rôtissoirs, on prend le jus, on remet dessus. Ce n'est même pas des gens que Dieu, d'une certaine façon, punit. C'est juste que Dieu respecte tellement la liberté qu'il a donnée à l'être humain qu'il lui accorde ce qu'il a voulu. Mais ce choix-là est définitif. Donc quand quelqu'un dit sur Terre, je ne veux pas de Dieu, parce que, pour quelles que soient les raisons, hein, Dieu respecte ce choix. Et s'il quitte cette Terre avec ce choix validé dans son testament éternel, Dieu dit, pour l'éternité, je ne vais pas t'imposer ce que tu n'as pas voulu. Donc tu vivras aussi, parce que l'âme est éternelle pour tout le monde, simplement on ne sera pas connecté pour l'éternité. Hein. Et puis c'est ça l'enfer, c'est que justement, comment ça se passe, c'est pas géographique encore une fois, mais c'est un autre sujet qu'on pourra prendre une autre fois. Par contre, pour nous aujourd'hui, est-ce que justement cette idée que la vie éternelle c'est ne pas mourir après la mort, ne me vole pas tout ce que je pourrais vivre maintenant, jour après jour, au milieu des difficultés de cette terre, dans les choses imparfaites, etc. Donc ça, c'était un petit peu la réflexion que je voulais développer. Et dans la petite pensée que je vous ai envoyée au milieu de l'été, là, au début de mes vacances, je n'avais pas dit à méditer pendant les vacances, d'ailleurs j'avais dit à méditer pendant l'été, parce que tout le monde n'est pas en vacances l'été. C'est pour ça, c'était. Mais c'est pas l'autre chose, c'était avant, quoi. Alors voilà. Pour moi, j'ai noté 3 caractéristiques de la vie éternelle. C'est pas du tout les seules, ni c'est les 3 qui me sont venues dans ma méditation. Hein. Et je reprends ce que je vous avais envoyé. Je vais un tout petit peu le développer, mais très courtement. Premièrement, la qualité donc de cette vie, c'est qu'elle est relationnelle. Hein. Pourquoi ? Parce que la vie de Dieu. Dieu, ce mystère de la Trinité qu'on ne peut pas expliquer, ils sont un mais il y en a 3, il y en a 3 mais ils sont un, hein, 3 personnes mais une seule nature, une seule essence, fait que avant que le temps et l'espace existent, ce qu'on ne peut même pas concevoir, Dieu était déjà relationnel. Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il s'ennuyait, contrairement à ce qu'on peut penser, hein, il voulait partager, c'est un choix qu'il a fait, la vie qui était en lui, mais Dieu était déjà un être relationnel, social, tout seul, à 3. Parce qu'il y a le Père et le Fils et l'Esprit, c'est comme ça qu'on les appelle en tout cas, hein. C'est encore des mots aussi bien sûr. Donc une des caractéristiques déjà essentielles et premières de la vie que Dieu a mis en nous le jour où on a accepté d'être reconnecté avec lui grâce à ce que Christ a accompli pour nous, pour faire un résumé de l'évangile en une phrase, c'est que une des qualités de cette vie, c'est qu'elle est relationnelle. Hein. Et elle est relationnelle dans tous les niveaux. Premièrement, elle me reconnecte au Créateur. Donc je retrouve cette irrigation avec celui qui est à l'origine de la vie, de toutes choses, de l'univers, de la création, de la musique, de tout. Hein. Je suis de nouveau connecté avec lui. On n'en est pas toujours conscient, on ne le sent pas toujours. En plus, sentir, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est émotionnel ou pas? Parce que ça passe de l'esprit de Dieu à notre esprit à nous, puis il faut que ça passe par l'interface de l'âme, et selon les gens, c'est différent, etc. Donc ça peut devenir très volatile. Mais c'est une réalité, on est reconnecté à Dieu, donc cette relation-là. Et comme conséquence, mais ça ne marche pas parfaitement et différemment avec chacun, ça devrait nous reconnecter aux autres, hein, parce que vous savez qu'on vit la plupart du temps très seul, même au milieu du monde, mais normalement, le rétablissement du lien avec Dieu est une des conséquences de cette vie éternelle, donc cette vie de Dieu, hein, pas juste le fait qu'elle dure, c'est que ça va améliorer notre capacité à nous reconnecter aux autres, et ça doit aussi guérir notre capacité à nous reconnecter à nous-mêmes. Qui nous sommes réellement, qui nous sommes dans l'intention de Dieu lorsqu'il nous a créés. Parce que même si le péché, c'est décentrer les choses. Hein. Le péché, c'est un tour et la pièce, elle n'est pas centrée. Hein. C'est un moteur qui est déréglé. C'est pour prendre toutes les images que vous voulez, mais ce n'est pas centré. Et Dieu veut recentrer nos vies et que tout tourne autour de l'axe principal qui est lui. Et y compris notre relation à nous-mêmes. Hein. Et les chrétiens peuvent être très très doués pour cacher leur malaise intérieur, leur mal-être intérieur avec eux-mêmes, en se jetant à corps perdu dans les activités. C'est pour ça que dans notre église, vous ne devez pas être si mal que ça intérieurement, parce que vous ne courez pas après les activités. Non, mais ce n'est pas une critique ce que je fais. Hein ? Mais quand je vois, quand je vois comment c'est facile de trouver des fois dans certaines communautés des gens qui ils s'arrêtent pas, quand on se demande quand c'est qu'ils dorment, quand c'est qu'ils mangent, ils sont toujours en train de faire. Alors peut-être ça peut être un peu d'altruisme, etc. Mais souvent ça cache une incapacité à faire face à soi-même, à faire face aux autres, à faire face à Dieu. Alors on fait des choses plutôt que, je suis pas en train de dire qu'il faut rien faire. Hein. C'est juste que normalement nos actions devraient être le fruit de cette vie en nous. Donc cette vie, elle me reconnecte à Dieu, elle me reconnecte à moi-même, elle me reconnecte aux autres. Et parce que maintenant, je suis bien, je peux faire des choses. Hein. D'accord. Donc, elle est relationnelle, c'est un truc à creuser. Et j'ai noté pour chacun de ces trois points, trois conséquences, mais je fais très bref, puis vous pourrez le reprendre. Parce qu'elle est relationnelle, elle neutralise la solitude profonde. La solitude profonde, c'est justement ce sentiment très, 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 je dis désagréable, le mot est léger, hein, d'être seul, surtout quand on est, parce que d'être seul quand on est seul, c'est normal, puis c'est bien des fois, enfin souvent. Mais ce qui est terrible, c'est d'être toujours seul. Et vous avez des gens autour de vous, et là, vous réalisez que vous êtes seul parce que personne ne vous comprend, personne ne comprend ce que vous vivez, personne ne sait ce que vous vivez, et vous êtes seul. Hein. Et cette solitude-là, elle est par moments, hein, par petits points, quand je suis connecté à cette vie en moi, elle est neutralisée. Alors effectivement, dans la vie qui continue après qu'on ait laissé le véhicule de location qu'on appelle notre corps pour continuer la vie d'après, hein, puisque notre être intérieur, il est immortel, et puis à la naissance, il est mis dans un véhicule de location qui commence à se dégrader de plus en plus, et puis qui un jour nous laisse au bord de la route, et puis on doit abandonner la voiture au bord de la route, mais nous on continue, libérés de ça. Hein. Ça sera, à la fois c'est triste et c'est bien. Mais pour le moment, par moment, donc, ça peut nous neutraliser cette solitude. Ça ouvre de nouveaux horizons, parce que à partir du moment où je suis reconnecté à Dieu, à moi-même et aux autres, il y a plein de choses qui n'étaient pas possibles qui deviennent possibles. Hein, je découvre l'échange, le vrai, hein, le partage, etc., l'amitié, ces choses-là. Et donc, troisième chose, elle a pour fruit l'amitié et l'intimité, et on pourrait dire l'amour aussi. Hein. Donc la vie éternelle, parce qu'elle est relationnelle, elle neutralise la solitude, elle ouvre de nouveaux horizons et elle a pour fruit l'amitié et l'intimité. Ensuite, l'autre caractéristique que j'avais noté pour moi, pour la vie éternelle, c'est qu'elle est exempte de mort. Mais attention, ce n'est pas juste le fait qu'elle ne va pas mourir, c'est que dans ses composantes, il n'y a rien de corruptible. Vous voyez la différence ? Je ne sais pas si c'est peut-être un peu compliqué ce point-là. Mais tout être vivant sur Terre, autant les êtres humains, les animaux, les arbres, les champignons, etc., hein, tout ce qui est vivant, est en train de se dégrader, va vers sa mort. Hein. C'est comme ça. Même si dans le monde animal, bah, les feuilles qui se dégradent, ça fait la nourriture pour l'arbre d'après, et puis, etc. Donc il y a un cycle de vie comme ça. Hein, qui est... Mais en attendant, pour la feuille qui meurt, elle n'existe plus sous la forme où elle existait, elle meurt. Et pour nous, un bébé qui naît, c'est une grenade dégoupillée, c'est horrible comme vision, mais c'est la réalité, il est en train de vieillir et puis il va inéluctablement mourir. C'est la seule chose qui est certaine pour tous les humains et dans laquelle on est tous égaux. Hein. Donc la mort est à l'œuvre au milieu de ça. Mais la vie de Dieu... elle n'est pas composée d'éléments corruptibles. Ça veut dire que ce qui se développe en nous et qui vient de cette vie-là, c'est effectivement sans fin. Mais pas juste parce que c'est sans fin, parce que l'enfer aussi est sans fin, mais parce qu'il n'y a pas de mort dedans. Hein ? L'enfer, c'est la mort éternelle, dans le sens où il n'y a pas cette connexion avec Dieu pour l'éternité. Ce n'est pas qu'elle s'arrête, c'est la qualité. Donc, il n'y a pas de corruption. Hein ? Et donc, tout ce qui ne contient pas de mort et qui est vivant, se développe. Parce que la vie ne peut pas être statique. Ce qui meurt, ça diminue. Même une pierre, on peut dire d'une certaine façon, une pierre c'est vivant, mais avec l'érosion, ben après c'est du sable et les grains de sable, tout se détruit. Mais la vie de Dieu en nous et ce qu'elle produit en nous, non seulement ça pourrit pas, ça se détruit pas, ça se conserve sans fin. Mais en plus, c'est un développement positif, hein, en expansion positive. Alors on peut se demander comment ça peut toujours, mais ça fait partie des mystères. Donc, elle est exempte de mort. Et cette caractéristique-là, bah, j'ai noté aussi trois conséquences. C'est qu'elle nous permet de vivre des petits moments, bref, comme des points sur une ligne, mais le but c'est qu'ils soient le plus rapprochés les uns des autres, où on se sent vivant. Et j'espère que vous avez expérimenté ça, parce que c'est différent de ce que disait Pascal, je pose une question à Dieu et je veux une réponse. Ouais, est-ce que je vais retrouver un travail cette année? J'aimerais bien, mais je ne sais pas. Bon, ça c'est... Par contre, se sentir vivant de la vie de Dieu à un moment donné, c'est autre chose, parce que ce n'est pas une question de mots, etc. Et je sais que, bah, il me semble en tout cas, c'est de ça que beaucoup d'apôtres parlent quand ils disent... Si vous avez goûté combien le Seigneur est bon, hein, où Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, ce que nous avons goûté concernant la parole de vie. Et pour moi, c'est une des choses les plus importantes dans ma vie, de saisir ces moments, et ça m'arrive, et les gens doivent me trouver bizarre, ou tout d'un coup, ça peut être absolument n'importe où et n'importe quand, je dois m'arrêter parce qu'il y a une petite seconde ou deux, là, ou plus, mais garde plus de quelques minutes, où je me dis, je pourrais mourir là, il ne me manque rien. Je suis, pouf, là, ah, je suis vivant, j'ai tout. Hein. Puis bof, ça passe, et puis après, je suis malheureux, je suis triste, et je suis joyeux, et j'y pense plus. Mais il y a ces petits points-là, et je crois que la maturité chrétienne, ou une des conséquences de la maturité, c'est que ces points soient de plus en plus rapprochés pour faire presque une ligne en pointillé, en tout cas. Hein. Voilà. Et puis, le fait qu'elle soit exempte de mort, c'est le fait que ça a pour conséquence aussi qu'elle n'est pas figée. Parce que tout ce qui est mort est figé, jusqu'à ce que ça se décompose, hein, mais tout ce qui est vivant bouge. Alors, il y a des moments où c'est calme. Hein, un enfant vivant, il dort. Quand il dort, il bouge un peu, mais pas trop, etc. etc. Mais, pas trop, ça dépend des enfants. Hein, mais tout ce qui est vivant est en mouvement. C'est pour ça que, personnellement, j'ai du mal avec les formes qui sont toujours les mêmes. Hein, parce que, j'avais un ami pasteur dans des églises baptistes en Espagne qui me disait, si le Saint-Esprit et la vie disparaissaient de nos églises, il faudrait 10 ans pour qu'on s'en aperçoive. Parce que tout est planifié pour les 10 ans à venir, quoi. Donc après, on s'apercevrait qu'il manque quelque chose, quoi. Donc la vie, elle est en mouvement. Et puis, elle porte des fruits d'espérance et désactive la désespérance. On peut être malheureux, mais ce n'est pas pareil que d'être désespéré. Paul dit, j'étais écrasé, abattu, mais non désespéré. Le désespoir, c'est quand il n'y a plus d'espoir, hein. Et c'est tragique parce qu'en général, si quelqu'un qui est réellement désespéré, l'étape d'après, c'est qu'on quitte cette vie. Hein. Plus de désir, plus de motivation, plus rien. Et puis, ça peut être la conséquence de beaucoup de choses, hein, de maladies, etc. Mais, et cette vie en nous, elle ne fait pas que tout est rose, tout est facile, mais elle élimine la désespérance complète, quoi, et puis qui fait qu'on peut supporter ce qui pourrait nous écraser. Et troisième caractéristique sur laquelle j'ai pu réfléchir, sur cette vie éternelle en nous, c'est le fait qu'elle est la seule nourriture qui rassasie, la seule boisson qui désaltère. Plus on avance en âge, plus on s'aperçoit que quand on a ce qu'on voulait, bah bof. Hein. Je crois que c'est Charles de Gaulle qui disait « Le meilleur dans l'amour, c'est quand on monte les escaliers. » Juste avant. Hein j'ai toujours trouvé cette citation assez... Voilà. Ben voilà, on le sait, hein, quand j'étais jeune, waouh, j'attendais une nouvelle bicyclette, waouh, je l'attends. Puis à l'époque, on attendait, c'était bien. On ne l'avait pas avant d'en avoir envie. Mais quand je l'avais, j'étais, en tout cas moi, j'étais content un certain temps. Hein. Mais en grandissant, voilà, j'étais content de changer d'ordinateur, mais le jour où je l'avais, ben, j'étais content parce que je l'avais, mais je m'en fous, quoi. Je suis content d'avoir une maison, une voiture, c'est différent avec les gens. Mais quand même, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui nous satisfait durablement. Or, une des caractéristiques de cette vie éternelle, mais pour nous aujourd'hui sur Terre, c'est qu'elle rassasie et qu'elle désaltère. Encore une fois, notez que le fait d'être rassasié ou désaltéré, c'est ponctuel. Hein, parce que si on garde l'image, ben voilà, j'ai faim, je mange, j'ai plus faim, je vis, j'ai de nouveau faim, etc. C'est un cycle. Hein. Et ça doit être pareil dans la vie intérieure. Mais c'est la seule nourriture qui rassasie vraiment et qui désaltère vraiment. Et donc, dans ce moment où je suis rassasié, qui est ponctuel, je suis libéré de l'insatisfaction. Parce que l'insatisfaction, c'est quelque chose de terrible, ça produit de l'amertume, ça produit des cancers de l'âme. Hein. C'est « Ah, pourquoi lui, pourquoi moi ?»« Non, non, on ne pense pas à moi, il n'y a pas assez ci, il n'y a pas assez ça, il faudrait plus de ci, il faudrait plus de ça. » Et puis ça, ça fait de la bile, c'est mauvais. Quoi. Mais on est comme ça. Mais dans le moment où j'ai plus faim, et le moment où j'ai plus soif, le temps du repas, ah, je suis bien. Et c'est pour ça que rencontrer Christ, se retrouver les uns les autres, la discipline, elle a un sens dans ce sens-là. Hein. Moi, j'aime beaucoup le thème de l'alimentation. Là, j'ai encore trouvé d'autres bouquins que je trouve super passionnants, etc. Parce que si on se nourrit bien et si on a une bonne hygiène de vie, on limite, on n'évite pas, mais on limite les problèmes physiques. Hein. Bah, spirituellement, c'est la même chose. Et donc, il faut de la discipline. Mais on met notre discipline toujours au mauvais endroit. Hein, on la met pour être meilleur, pour bien faire, pour être... Non, la discipline, il faut la mettre pour se connecter à la vie. Et c'est une discipline, c'est un travail, entre guillemets, parce qu'il faut s'arrêter, il faut prendre le temps, il faut aller là où d'autres croyants sont, il faut lire, il y a des choses à faire, mais ce n'est pas ces choses-là qui sont importantes. C'est juste ça, c'est le travail, c'est l'entraînement du compétiteur ou c'est les courses de la cuisinière. Là. Mais le but, c'est de se connecter, d'être conscient qu'on est connecté à cette vie. Et dans ce moment de repas, hein, on appelle improprement culte ce moment de rassemblement, ou ça peut l'être. Le culte, ce n'est pas aller le dimanche matin dans une salle écouter quelqu'un, chanter ou faire autre chose. Le culte, c'est justement ce moment où mon être intérieur est connecté avec Dieu et je mange et je bois de cette vie et j'en suis conscient. Et dans ce moment présent, je suis bien, je suis vivant. Il ne me manque rien, je suis satisfait. Pas de moi, hein, mais de... Voilà, je ne suis pas dans l'insatisfaction. Et ce petit moment-là, c'est ça le culte. Romains 1,9, quand Paul se présente et qui dit « Dieu à qui je rends un culte en mon esprit », c'est de ça qu'il parle. Hein. Nous, quand on pense à Paul, on pense qu'il a fait des kilomètres, il a implanté des églises, il a traversé la mer, il a été dans une arène, il s'est battu avec des lions, des gladiateurs. Ouais, ça, c'est ce qu'il a fait. Mais Paul, quand il parle de sa vie, il dit « Dieu à qui je rends un culte en mon esprit ». C'est ce qui met sa carte de visite. Parce que l'essentiel dans sa vie, ce n'est pas tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait, il a pu le faire parce que Dieu lui a demandé, parce qu'il avait les dons pour ça, mais surtout parce qu'il était connecté à cette vie qui donnait l'énergie. Et donc, dans les conséquences d'être connecté à cette vie qui rassasie, qui désaltère, j'ai dit, elle désactive l'insatisfaction, elle fournit l'énergie pour aller de l'avant, parce qu'effectivement, on doit aller de l'avant. J'ai dit que ce qui est vivant, ça grandit toujours. Tout ce qui grandit a besoin d'énergie. Il n'y a rien qui se déplace sans énergie, il n'y a rien qui évolue sans énergie. Quelle est l'énergie? Et c'est pour ça que c'est triste quand l'énergie dans le monde chrétien, c'est la culpabilité, le devoir, le « il faut », avec tout ce que Dieu a fait pour vous, vous devriez. Non, avec tout ce que Dieu a fait pour nous, c'est super qu'il l'ait fait. Mais il l'a fait pour qu'on puisse se connecter à lui, pour qu'on soit nourri par cette vie et que cette vie mette en nous une énergie qui fait que je vais pouvoir aller. Lorsque Élie est en pleine dépression, couché sur son arbre, il veut mourir, il en a marre. Dieu envoie un ange qui donne un gâteau et puis il dit « mange », et puis une cruche et « bois ». Il mange, il boit, il se recouche, il se rendort, il le réveille, mange, boit, il mange, il boit, et après avec ça, il marche 40 jours, 40 nuits sans être fatigué. Pourquoi? Pour rencontrer Dieu quelques minutes en haut d'une montagne. Ben, c'est ça que ça fait. Hein. Cette vie en moi, à la fois, elle est la nourriture, et en même temps, elle est l'énergie pour aller jusqu'au prochain repas. Parce que les repas sont importants, mais vous savez que si on restait à table entre deux repas et qu'on ne fasse rien qu'attendre le repas prochain, on serait vite malade. Puis alors la nourriture, ça serait dégoûtant. Hein. Et c'est pour ça quand on dit « Ah, oh, moi, j'aime pas lire ma Bible. Faut aller à l'église, oh, c'est ennuyant. » Et encore ça, c'est la version polie. « Oh, retrouver les chrétiens, oh, c'est ennuyant. » Il y a un problème quelque part. On est déconnecté de ce qu'il faut. Parce que quand j'ai mangé et que je suis rassasié et que je suis plein, j'ai de l'énergie, c'est facile de faire des choses. Et je ne suis pas épuisé, frustré parce qu'il n'y a que moi qui le fais, on n'est pas assez. Non, j'ai ce qu'il faut, hein. Une voiture qui a le plein de réservoirs, on mettait le moteur, elle roule, elle est contente de rouler, elle est faite pour ça. Et nous, c'est pareil. Sauf que on a l'énergie pour aller jusqu'au prochain repas. Ben voilà, la voiture, on voit la jauge. Hein. Cette vie-là qui, pour un moment, me rassasie, me nourrit, qui est en moi, qui me coupe de la solitude, qui fait que je vis vraiment là, je l'ai goûté que chez toi. Alors, je ne veux pas aller ailleurs. Et c'est incroyable. C'est pour ça que Dieu va choisir Pierre. Le gars, il fait des bêtises les unes derrière les autres. Il n'est pas fin pour deux sous. Il est lourdeau. Il n'est pas tôt. Il est ci. Il n'est pas trop éduqué. Mais il a goûté à cette vie et il dit « Je ne me contenterai pas d'autre chose. Je ne veux plus de la religion. Je ne veux plus de ci. Je ne veux plus de ça. C'est ça que je veux. J'en ai eu qu'un petit peu, mais c'est ça que je veux. » Et encore une fois, ça n'empêchera pas de dire des énormités après, de se disputer avec l'un. Mais il a goûté ça et il veut ça. Et la vie chrétienne, ça devrait être ça. On a goûté cette vie éternelle. Hein, juste, ah, et maintenant, on passe notre vie à la chercher. Hein. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, en vieillissant, les goûts, surtout, et les odeurs de quand j'étais enfant, ça me ferait courir des kilomètres à pied. Hein. Retrouver le goût de la confiture de ma grand-maman quand j'avais 4 ans et qu'elle mettait le beurre sur ce pain-là. Et je ne le trouve plus, parce que c'est moi qui ai changé. Hein. Mais quand quelque chose me rappelle ça, ouf, je suis tout d'un coup, je serais prêt à le payer 3 fois le prix normal pour l'avoir, hein, parce que ça me rappelle ça. Ben, c'est ça, la vie éternelle, si on doit la goûter un petit peu et après, on devient des chercheurs de cette vie partout, en nous, mais autour de nous. Et puis quand je rencontre des gens qui en vivent aussi, Il y a quelque chose de surnaturel, mais on se reconnaît. On n'a pas besoin de savoir si on pense pareil, si on a la même doctrine, si on a la même culture, si on vote à droite, à gauche, si on aime la musique, le classique, le rock. On s'en fout. On rencontre quelqu'un, et quand on rencontre quelqu'un qui est connecté, qui sait ce que c'est que d'être connecté à cette vie éternelle, c'est comme... Vous savez, ces applications que je n'approuve pas spécialement, mais enfin, hein, qui servent à rencontrer des gens tout près de chez vous pour quelque chose de rapide, vite fait. Ben, nous, on a ça avec la vie éternelle. Hein. Je suis dans un train et je suis en vacances, je vais au travail et je croise quelqu'un et on échange 3 mots et ting, je dis waouh, lui, il sait. Hein. Et puis là, il peut y avoir justement cette sortie de la solitude, cet échange, cette amitié qui, peut-être, pof, c'était juste un passage, on va plus se revoir, mais. On a vécu quelque chose parce qu'on sait que lui aussi, il connaît. Lui aussi, il a goûté la confiture de grand-maman. Et puis lui aussi, la seule chose qu'il veut, c'est en remanger. Hein. Et ça devrait être ça. Alors, la vie éternelle, si je pensais l'avoir enfermée dans ces quelques petites choses, je serais gravement prétentieux, malade et grave. Hein. Voilà, tout ce que vous voulez. Mais ces quelques petites pistes, en tout cas, c'était les miennes pour cet été. Et donc, je vous encourage à continuer de réfléchir sur ce que c'est cette vie, pas juste pour après la mort, mais maintenant, parce qu'elle est à notre disposition. Hein, et le but de l'Église, le but de la vie chrétienne, faire des disciples, c'est que ça. C'est apprendre à éduquer les gens qui ont été reconnectés à Dieu. Alors, il faut passer par le point de départ, hein, ce qu'on appelle la conversion, etc. C'est le point de départ. Et s'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de vie. Mais un enfant n'a pas vécu tout ce qu'il avait à vivre parce qu'il est né, ou parce qu'il a été conçu même. Il faut dire qu'il naisse et puis qu'il vive. Et c'est pareil pour nos vies chrétiennes. Et c'est du coup, tout ce qu'on fait dans notre vie communautaire doit avoir ce but-là. Pourquoi on vient ici le dimanche matin ? Parce que ça fait partie des choses qui nous aident à retrouver ce goût-là. En tout cas, moi, ça m'aide quand je suis avec vous, quand on en parle, quand on y réfléchit, quand il y a certaines choses. Après, s'il y a des choses dans nos rassemblements qui ne servent pas à ça, ben, il faut réfléchir, il faut les éliminer. Parce qu'elles ne servent à rien. On n'est pas là pour meubler, on a d'autres choses à faire, tous, plein. Hein ? Par contre, peut-être on peut y ajouter d'autres choses qui nous aident à saisir cette vie, à la cultiver, à la comprendre, à l'aimer, à l'encourager, à la développer. Et puis, sans se décourager, sans, voilà, c'est pas quelque chose qui, c'est pas un distributeur automatique et paf, la vie de Dieu. Mais elle est là et on le sait. Et puis, même si on la voit plus pendant un moment, on la sent plus, elle est là. Je suis dans la paix, je suis tranquille. Hein, et on va apprendre à descendre en nous. C'est pas un truc New Age bizarre, mystique, hein, pour rencontrer Christ qui est en nous, parce qu'il n'est pas loin, il n'est pas ailleurs, il est ici en nous. Puis ça, ben, c'est ce qui est développé dans la pensée du mois, du programme que vous aurez aujourd'hui. J'ai fait très très long, excusez-moi, mais tant pis, je ne regrette pas. Merci Seigneur pour ces moments ensemble, pour ta vie, pour cette vie qu'on appelle éternelle, mais qui est juste ta vie à toi, ta vie normale, celle de tous les jours. Tu n'as pas une vie pour le dimanche, une pour la semaine, tu n'en as qu'une. Et c'est celle-là que tu veux nous partager, que tu nous as donnée déjà, que tu as mise à notre disposition par l'œuvre de Christ, sa mort, sa résurrection, et à laquelle nous devons consentir. Et puis, tu veux nous apprendre à la cultiver, à la reconnaître, à l'encourager, à la protéger, à la chérir, à la partager. Alors, on est absolument incapable de faire tout ça, mais donne-nous-en la compréhension pour que lorsque tu viens le faire en nous, nous puissions au moins pas te mettre trop de bâtons dans les roues, que nous puissions te laisser faire tout simplement, et nous laisser faire et nous abandonner à toi, Seigneur.